La parole de Dieu expliquée. Ouvrez les guillemets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fermez les guillemets. Évangile attribué à Jean, chapitre 1, versets 1, 2, 3. Avant-propos. Le propos de ce texte est d'expliciter cette parole dont parle cet évangile, attribué à un des apôtres de Jean, de Jésus, pardon. Jean. Des spécialistes, historiens laïcs, sans idées préconçues, doutent que Jean, fils de Zébédée, ait écrit cet évangile. Beaucoup pensent que ce dernier des quatre évangiles canoniques est l'œuvre d'une communauté johannique, entre parenthèses, communauté religieuse particulière, à la fin du 1er siècle, et que ses rédacteurs n'ont pas connu Jésus. Cet évangile a été rédigé en grec. Le logos ou parole. C'est cet évangile qui insiste le plus sur la nature supposée divine de Jésus et qui en fait le Logos incarné. Justement, en parlant de Logos, c'est un mot grec, celui qui a été utilisé pour rédiger l'évangile selon Jean, entre guillemets, et signifiant parole. Mais ce mot grec a de multiples acceptions. C'est pourquoi celui qui veut traduire un texte grec ancien devra enquêter sur l'époque, le contexte et l'école de pensée du rédacteur d'origine, comme pour le sanskrit. Selon une optique profane, le mot logos, entre parenthèses, parole, signifiera proposition, définition, science, opinion particulière, rumeur publique. Avec un point de vue sacré, le logos ou la parole sera une réponse d'oracle, une révélation d'en haut. Chez Héraclite, philosophe grec de la fin du VIe siècle avant notre ère, logos signifie tantôt simple dire et parole sensée du maître. Entre parenthèses, Encyclopédie Universalis. Les philosophes grecs. Chaque philosophe grec important a eu sa notion de ce qu'est le logos. En tout cas, il a largement eu le sens de discours parlé ou écrit, pour Wikipédia. Mais dans le texte, selon les rédacteurs de l'évangile attribué à Jean, le sens de ce mot logos ou parole ne peut pas être celui-là. Ouvrez les guillemets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Fermez les guillemets. Au commencement, la parole existait déjà, mais pas l'homme. Donc, ni l'écriture, ni le langage articulé. Dans le néopythagorisme, entre parenthèses, premier siècle avant Jésus-Christ, la parole est décrite comme un principe fondateur. La dualité serait intégrée dans le logos, entre parenthèses, parole. Dans ce courant philosophique grec, on parlait de trois dieux qui se manifesteraient à partir du logos. Cette idée des trois dieux me fait penser à la Trimurti hindouiste avec Brahma, Vishnu et Shiva. Vous savez, à cette époque, cette région du monde était plus tournée vers l'Orient que vers l'Occident. Dans le néoplatonisme, entre parenthèses vers 40 de notre ère, c'est-à-dire à l'époque à peu près où aurait été écrit cet évangile, le logos était considéré comme une hypostase, c'est-à-dire une substance fondamentale à un principe premier. La doctrine néoplatonicienne considère même le logos, la parole, comme un principe divin. Le néoplatonisme considérait que Dieu, l'unique, générait trois hypostases. L'un, le mental et l'âme. Les rédacteurs de l'évangile selon Jean du 1er siècle de notre ère étaient très influencés par la philosophie grecque, elle-même influencée par les enseignements venus d'Orient, Inde, dont le bouddhisme, point. En Anatolie, il n'est pas rare de trouver de l'iconographie bouddhiste datant de l'Antiquité. L'hypostase. Certains affirment que Dieu parle et que sa parole, son hypostase, créatrice, est aussi puissante que lui. Mais quelle idée que celle d'un Dieu qui parlerait. Il parlerait quelle langue? Il aurait un système phonatoire, comme un homme? Mais si Dieu a tout créé, qu'il n'est jamais né et ne mourra jamais, c'est qu'il n'est pas un homme, une créature. Seule une créature naît et meurt. Dieu n'est pas une créature, et il dépasse en taille celle de sa création. Pour tout dire, il est infini. Il est ce que Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, nommait le non-être, ou Tao. Il ne parle pas, et sa parole, ou logos, en grec, n'est pas une parole ayant à voir avec des lettres, des syllabes ou des phonèmes, des sons. Les maîtres orientaux et l'hypostase. Ouvrez les guillemets. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Fermez les guillemets. La parole était Dieu, pas les sons articulés d'un être qui parle. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu donne une très bonne définition de ce qu'est cette parole, Dieu, et l'hypostase, entre parenthèses, le logos. Deux points, ouvrez les guillemets. Le Tao est un vide inépuisable, il est si profond. De lui sont sortis tous les êtres vivants. Éternellement, il émousse ce qui est pointu, dénoue le fil des existences, fait jaillir la lumière. Du rien, le Tao crée toute chose. Sa pureté est indicible, il n'a pas eu de commencement, il est. Nul ne l'a engendré, il était là avant le maître du ciel. Fermez les guillemets, je pense que le maître du ciel c'est une allégorie pour dire le soleil. Ça vient du... c'est Lao Tzu, c'est une parole attribuée à Lao Tzu, ça vient du Tao Te Ching... Livre 1, chapitre 4. Donc, cette parole dont il est question dans l'évangile selon Jean, entre guillemets, serait ce que Lao Tzu nommait la vertu du Tao, c'est-à-dire l'hypostase, la force en action de Dieu. Un autre maître asiatique avait parlé aussi de cette parole qu'il nommait verbe, Krishna. Deux points, ouvrez les guillemets. On doit tout faire en écoutant le verbe si l'on veut connaître le but de la voie qui est de s'affranchir des chaînes de la matière. Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, chapitre 17, verset 25, ou chapitre 15, verset 23 du Chant du Bienheureux, qui est une nouvelle version de la Bhagavad Gita, réécrite avec la compréhension de la voix. Ouvrez les guillemets, voici maintenant de quelle manière être pleinement conscient de l'unité dans la pratique de la voix. Ta conscience liée au verbe, tu connaîtras l'infini de l'unité sans le moindre doute. Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 1, ou chapitre 6, verset 1 du Chant du Bienheureux. Sur la voie, héritière de Lao Tzu et de Krishna, entre autres maîtres, cette hypostase, nous la nommons le saint nom ou verbe. Lao Tzu disait la vertu du Tao. Ouvrez les guillemets, si l'homme cultive le Tao, sa vertu deviendra vraie. S'il le cultive en famille, elle grandira. Si tout le village le cultive à son tour, elle sera encore plus grande. Et si le royaume le cultive, elle augmentera encore. Si tout le monde le cultive, la vertu du Tao deviendra omniprésente. Fermez les guillemets. Tao Te King, extrait de 2, 54. Les versets 1, 2, 3 de Jean auraient pu être rédigés ainsi. Ouvrez les guillemets. Au commencement, la vertu du Tao existait déjà. La vertu du Tao était avec le Tao et la vertu du Tao était le Tao. Elle était au commencement avec le Tao. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ou selon la voix, ouvrez les guillemets, au commencement le saint nom existait déjà. Le saint nom était avec Dieu et le saint nom était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Fermez les guillemets. Vous pouvez substituer le mot saint nom par le mot verbe. Ça fonctionne aussi.